Vous écoutez Radio Grand Ciel, votre émission Histoire et Mémoire de la région d'Oise. Bonjour à toutes et à tous. Pierre Fressonnet, membre de la Société des Amis du Musée, de la Bibliothèque et des Archives de Dreux au micro, et la charmante Émilie aux manettes. 1870-1871, une guerre méconnue. La mémoire collective française fait peu cas de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, une défaite humiliante faisant perdre à la France l'Alsace et la Lorraine. Pourtant, cette guerre fut déterminante car elle porta en germe les deux guerres dites mondiales. Les causes. Un empire finissant, le second français avec Napoléon le troisième, contre un empire, l'allemand en redevenir. Mais surtout un sentiment de revanche des Allemands après la bataille d'Iéna. La bataille d'Iéna s'est déroulée le 14 octobre 1806 à Iéna, Allemagne, actuel Land de Thuringe, parallèlement à la bataille d'Orstadt. Pour la petite histoire drouaise, c'est à cette bataille d'Orstadt qu'a été tué le général drouais Jean-Louis de Billy. La défaite prussienne provoqua un traumatisme au sein de l'élite prussienne et les Allemands sortirent humiliés et fascinés par l'occupation française, entre autres celle de Berlin, et sont contraints de l'imiter pour s'en sortir. La France servira donc à la fois de modèle et de repoussoir pour l'unité allemande. Le nationalisme allemand sera à la fois teinté de francophonie, nourri du libéralisme politique issu de la Révolution française. Napoléon Ier, par ses victoires, organisa la chute du Saint-Empire en le transformant en une confédération du Rhin trop favorable à la France, qui se disloquera après l'abdication de l'empereur français. Les États allemands, en particulier la Prusse, n'auront de cesse de vouloir réformer l'Empire germanique. Le chancelier Otto von Bismarck dira d'ailleurs, après la proclamation de la restauration de l'Empire allemand à Versailles en 1871, « sans Iéna, pas de Versailles ». Revenons en 1870. Le trône d'Espagne est vacant. Un prince allemand se présente à la succession. L'empereur français Napoléon III n'est pas d'accord. Surtout que l'impératrice Eugénie, sa femme, est d'origine espagnole et a son propre candidat au trône d'Espagne. Le roi Guillaume de Prusse accepta cependant l'effacement de son poulain. Mais par la célèbre dépêche d'Ems, bidouillée par le chancelier Bismarck, la France croit à un affront et déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Voyant la Prusse attaquée, les petits États allemands se rallie au ravissement de Bismarck qui voit ainsi se reconstituer l'Empire allemand. Cette guerre courte, à peine 8 mois, est moderne, car exploitant toutes les techniques et progrès industriels du XIXe siècle. En 55 ans, moins longtemps que la vie d'un homme, tout a changé. Entre les guerres du temps de Napoléon Ier et celles du temps de son neveu Napoléon III, l'art militaire, si c'est un art, n'est plus du tout le même. La grande armée de Napoléon se déplaçait à raison de 50 km jour, un exploit pourtant pour l'époque. Celle de Napoléon III, 50 km heure grâce au chemin de fer. 3 semaines pour joindre Paris à l'Italie à pied, 3 jours par le train. Le transport par train des troupes et du matériel vers le front favorisa une mobilisation rapide. Cette mobilisation avec transport ferroviaire vers les frontières fut bien mieux et plus rapidement exécuté en Allemagne qu'en France. Et pourtant, c'est un Drouais, le commandant Charles Raymond de Coignard, spécialiste de la topographie, qui avait vu dès 1850 l'importance du chemin de fer pour le transport des troupes et de l'armement, comme les canons et munitions, et avait adressé nombre de rapports à ses supérieurs. En 1815, les messages sont transmis par estafette au galop d'un cheval au risque d'interception par l'ennemi. plus d'une journée pour traverser la France. Par contre, quelques minutes pour transmettre un message avec le télégraphe optique Chappe, qui pourtant ne fonctionne ni la nuit ni en cas de brouillard. Le message est transmis immédiatement avec le télégraphe électrique, fonctionnant quelles que soient les conditions climatiques. La dépêche Thames, d'ailleurs, en est le symbole. Les télégrammes arrivent certes plus vite qu'un cheval au galop, mais les fils, une fois coupés par l'ennemi, l'information ne passe plus. C'est pour cela que les combats les plus violents de la guerre franco-prussienne eurent lieu autour des voies de chemin de fer et des lignes du télégraphe stratégique, voies de communication. Les armes de 1870 n'ont plus rien à voir avec celles de 1815. Le fusil des armées du Premier Empire, dit fusil de Charleville, pour tirer avec ce fusil à poudre noire, un soldat devait le faire en position debout, en chargeant la poudre, puis la balle par la bouche et canon. Cela permettait de tirer à peine 2 fois par minute et la portée était aussi d'à peine 150 mètres. Le fameux fusil Chassepot français de 1870 se chargeait par la culasse et se fermait comme une tabatière, d'où le nom de fusil à tabatière et non par la bouche comme du temps de Napoléon Ier. Cela permettait aux soldats de tirer et de recharger 7 à 8 fois par minute, même en position couchée pour une portée de 350 mètres, ce qui favorisait les embuscades. Le Chassepot était réputé plus précis que le Dresse allemand. Cependant, la poudre noire utilisée encrassait très vite l'arme française et il fallait constamment la nettoyer. Les canons de meilleure portée, celui des Allemands, se chargeaient par la culasse. Le fût du canon est strié et cela permet, en faisant tourner l'obus dans une meilleure pénétration dans l'air, et d'augmenter la portée. Le canon à balles des Français n'est pas à la hauteur du matériel allemand, mais cependant il est efficace à courte portée contre l'infanterie. Les mitrailleuses existaient déjà, mais pas encore au point, elles furent peu utilisées. La cavalerie, face aux nouveaux fusils et canons et aux mitrailleuses, les charges de cavalerie à la Murat devinrent obsolètes. Les charges de cavalerie suicidaires de Rachofen signèrent la fin de cette façon de guerroyer. D'ailleurs, petit détail, pourquoi les casques à pointe portés par les soldats de la coalition prusso-allemande ? Le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse décida en 1842 d'équiper son armée d'un nouveau casque. Il choisit un casque à pointe dont l'extrémité est censée dévier sur les côtés les coups de sabre et autres armes. Ce modèle se répand lentement dans les autres principautés allemandes, la Bavière étant le dernier royaume allemand à l'adopter en 1887. Évidemment, la pointe de ce casque n'aura plus d'utilité dans les tranchées de la guerre 14-18. Les aréostats. Inconnus des batailles de Napoléon Ier, les ballons furent utilisés pour l'observation des batailles et pour sortir de villes assiégées. Une soixantaine de ballons, pas encore dirigeables, permirent à des personnalités avec des sacs de courrier de s'évader du siège de Paris. Mais ces ballons étaient déjà attaqués par des canons anti-ballons prémices de la DCA. Les navires cuirassés à vapeur n'eurent pas de rôle dans cette guerre essentiellement terrestre. La Croix-Rouge. La France et l'Allemagne avaient, en 1864 à Genève, signé la Convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés, inspirée par la Croix-Rouge créée par le Suisse Henri Dunant après la bataille de Solferino en 1859. Cela permit dans les deux camps une meilleure prise en charge des blessés et des prisonniers.
Thank you.
Les Allemands furent surpris en septembre 1870 par trois événements de taille. Le premier événement, après l'abdication de Napoléon III, battu à Sedan, les Allemands pensèrent la guerre finie. Mais les opposants à l'Empire, dont Thiers et Gambetta, proclamèrent la Troisième République le 4 septembre 1870. Depuis cette date, la France est dirigée démocratiquement par le régime d'une république parlementaire. À la grande surprise des Allemands, le gouvernement provisoire continua la lutte en se réfugiant à Tours, puis à Bordeaux. Pour certains historiens, ce fut une erreur. L'arrêt de la guerre en septembre 1870 aurait pu peut-être éviter le siège de Paris et l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Le second événement, après la reddition de Sedan puis de Metz, les Allemands eurent subitement 475 000 prisonniers de guerre à évacuer vers l'Allemagne. Ils n'avaient pas prévu ce nombre important de prisonniers, représentant près des trois quarts de l'armée française. Les conditions de captivité furent désastreuses pour les prisonniers de guerre français. Un de mes arrière-grands-pères a participé aux batailles autour de Metz. Les batailles de Morny, Mars-la-Tour, Vionville, Raisonville, Gravelotte et Saint-Privat, les 14, 16 et 18 août, qui virent 250 000 Allemands s'opposer à 180 000 Français et au siège et à la capitulation de Metz. Dans ces carnets, qui sont ma possession, mon arrière-grand-père fustige l'incapacité des généraux qu'il appelait de salon, en particulier celle de Bazaine et de Napoléon III qu'il nommait baldinguer, car pour lui, après la victoire de Mars-la-Tour, l'armée française aurait pu et aurait dû poursuivre l'armée allemande en déroute, alors que Bazaine décida de retourner dans Metz et de s'y enfermer. C'est pour ça que plus tard, Bazaine a été en tribunal de... Alors, ce grand-père dépeint aussi la captivité de 8 mois pénible dans une île du Rhin en Allemagne. Le troisième événement, l'armée française impériale est en grande partie hors de combat avec plus de 138 000 morts et 475 000 prisonniers. Les Allemands, contraints de continuer la lutte, se trouvèrent en face des dépouilles de l'armée régulière. Glorifiée par l'imagerie populaire, l'évasion du siège de Paris par ballon de Léon Gambetta permit de reformer une armée dite « armée de la Loire », mais aussi d'une armée de réservistes, les mobiles. Les mobiles, anciens soldats de 30 ans, étaient répartis par corps de département. Il y avait bien sûr les mobiles d'Eure-et-Loire, les mobiles du département de Calvados avec à leur tête le commandant Beaurepaire se distinguèrent lors des batailles autour de Dreux. Si seule une partie de la France était occupée par l'ennemi, disons grosso modo tous les départements du Nord entre justement la frontière du Nord et la Loire, mais tous les départements de la France ont participé aux batailles contre la Prusse. Et puis, en dernier, les gardes nationaux, qui, eux, étaient organisés par ville. C'étaient des civils âgés, 40 ans, voire plus de 50 ans, la plupart n'ayant aucune préparation militaire. La garde nationale de Dreux comportait 800 hommes peu aguerris et n'ayant que 300 vieux fusils. Et aussi, en dernier lieu, une résistance. Ce qui a surpris beaucoup les Allemands d'ailleurs, résistance faite en partie de francs-tireurs non militaires et clandestins qui, selon l'occupant, ne respectaient pas les lois de la guerre. Les Allemands eurent très peur des francs-tireurs. Ils s'en souvinrent en 14-18 et en 1940-45 et furent sans pitié contre les civils dans lesquels ils voyaient des combattants d'une armée secrète. Le début de cette guerre de 8 mois par l'inorganisation... Le début de cette guerre de 8 mois, par l'inorganisation des troupes françaises, possède des analogies flagrantes avec la débâcle de 1940. La guerre s'étend en Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire se trouve en prise en tenaille entre les armées allemandes assiégeant la capitale et l'armée de la Loire connaîtra 6 mois terribles. La région d'Oise sera durement touchée par cette guerre, ce que la mémoire d'Oise a complètement occulté. À partir du 22 septembre, Paris est assiégée. et la population est affamée. L'armée allemande qui est massée autour de la capitale est composée au début du siège de 150 000 hommes. Mais ce chiffre progresse au fur et à mesure de la libération des troupes de siège, Metz et Toul, Strasbourg en particulier, pour atteindre 400 000 hommes. Si les 2 millions de Parisiens enfermés derrière les fortifications défendues par 150 000 militaires ont faim, les Allemands, eux, ont toute la latitude pour se ravitailler en nourriture. La Brie et surtout la Beauce vont donc être pillées sans scrupules. Dreux, n'étant qu'à 80 km de Paris et sa région étant essentiellement agricole, les Allemands s'intéressèrent très tôt aux céréales et au bétail du Drouet. Les Prussiens étaient organisés de façon suivante. Un détachement d'une vingtaine d'Uhlans, avec leur lance, cavaliers rapides, faisait une reconnaissance dans la ville ou le village convoité. Puis une centaine de soldats investissaient le terrain, puis un régiment de 2000 hommes avec éventuellement un ou deux canons pour une occupation totale du village ou de la ville à conquérir. Les régiments de cette coalition allemande étaient encore formés par État. Les Prussiens, les Bavarois, les Badois, etc. Donc l'occupation de la France par les Prussiens comprenait des territoires situés grosso modo du nord de la France jusqu'à la Loire. Un peu moins que la zone occupée en 1940. En octobre 1870, Dreux a peur. La guerre s'étend et se rapproche. Les Allemands sont à Versailles depuis le 19 septembre et assiègent Paris depuis le 22. Dreux n'a plus de contact avec la capitale. La voie ferrée Paris-Granville et le télégraphe sont coupés. Les nouvelles apportées par un ballon venant de Paris et atterri à Dreux ne sont pas rassurantes. L'ennemi sera à Dreux dans les jours à venir. La guerre de 1870 à Dreux. Charles de Coignard, militaire à la retraite, commandant des gardes nationaux de Dreux, conseille au maire Batardon de ne pas résister si une armée prussienne entre dans la ville. Une résistance serait vaine, car la région de Dreux est un pays plat, à découvert, et surtout que peuvent tenter 800 braves civils sans expérience militaire et armés de seulement 300 vieux fusils, contre 2000 jeunes soldats bien entraînés, dotés de fusils modernes et de plusieurs canons. Le 8 octobre 1870, 7000 Allemands avec 12 canons sont arrivés à Houdan. Houdan devint une tête de pont pour rançonner le Drouet et la Beauce. Des éclaireurs Uhlans se présentèrent à l'entrée de Dreux. mais le maire ne les laissa pas entrer. À Cherizy, 24 hussards bleus, venus réquisitionner de l'avoine et des vaches pour l'armée assiégeant Paris, se heurta à 200 Français et prirent la fuite. Le 9 octobre, les Allemands revinrent à Cherizy pour réclamer les réquisitions de la veille. Ils sont attaqués par des mobiles de l'Orne et les gardes nationaux de Dreux. Une lutte acharnée s'engage dans le village. L'ennemi se retire. On dénombre plusieurs morts et prisonniers de chaque côté. Le 10 octobre, 2000 Allemands avec deux canons attaquèrent sans succès les Français barricadés au pont de Cherizy. Pour les Prussiens, une ville, un village dans lequel ils sont attaqués est réputé en guerre. Ils vont donc se venger. Plus de 50 maisons de Cherizy sont en flammes quand ils se retirèrent. Le 18 octobre 1870, le lieutenant-colonel Beaurepaire, commandant les mobiles du Calvados, désireux de surveiller les troupes ennemies signalées à Marolles venant de Houdan, grimpe en haut de la tour Eiffel. Alors que le 18 octobre, vous allez avoir du travail. Hein. Le 18 octobre 1870, le lieutenant-colonel de Beaurepaire, commandant les mobiles du Calvados, désireux de surveiller les troupes ennemies signalées à Marolles et venant d'Oudan, grimpa en haut de la chapelle royale. Sur le toit, il glissa, traversa la verrière du dôme et se tua en tombant sur le carrelage de la chapelle. Le 24 octobre 1870, en pleine nuit, aux cinq chênes, route de Châteauneuf, près de Chambléan, une fusillade entre mobiles et francs-tireurs, se prenant les uns les autres pour les Prussiens, a fait 12 morts et une soixantaine de blessés français. À la surprise des Allemands, cantonnés à Merville. La capitulation de Metz le 27 octobre libéra beaucoup de troupes allemandes sur le siège de Paris et la province. La pression de l'occupant devint plus forte en Eure-et-Loire. Le 17 novembre, au même endroit que la bataille de 1562 entre catholiques et protestants, 15 000 Allemands avec 12 canons venant de Chartres sont interceptés par 3 000 mobiles et 400 fusiliers marins, mais sans artillerie, entre Imbermé et Nuisement. Le combat étant inégal, les fusiliers marins se sacrifièrent pour permettre aux mobiles de se replier sur Nonancourt et de livrer le lendemain matin la bataille de Torcé, perdue par les Français. Au Rochelle, une rue à l'endroit des derniers combats porte le nom de 17 novembre 1870. Le 18 novembre, les Allemands entrent dans Dreux, décrétée ville ouverte par le maire Batardon afin d'éviter le sort malheureux de Cherizy et de Châteaudun. Pour Dreux, la guerre est finie. Mais la ville de Dreux subira pendant près de 3 ans, non pas une occupation comme en 1940, mais des passages incessants de troupes allemandes qu'il fallait héberger et nourrir. En 1871, le 18 janvier, l'Empire germanique est proclamé à Versailles. Pour Bismarck, la vengeance sur l'humiliation subie à Iéna est complète. Guillaume Ier de Prusse devint l'empereur Guillaume Ier de tous les États allemands réunifiés. Le 28 janvier, Paris capitule. Le siège est terminé, les Allemands défilent dans la capitale. Le 18 mars commencent à Paris les tragiques événements de la Commune. Le 10 mai 1871, fin diplomatique de la guerre par le traité de Francfort, la France perd l'Alsace et la Lorraine. Après que les Français eurent payé les 5 milliards de francs or exigés par les vainqueurs, les armées de l'Empire germanique quittèrent le territoire français le 16 septembre 1873. Mais lucide, Otto Bismarck pronostiqua « La France est dans le même esprit de vengeance que nous avons eu après la défaite d'Iéna et l'occupation de la Prusse et de Berlin par les troupes françaises de Napoléon et le démantèlement de l'Empire germanique. La France n'aura maintenant de cesse d'essuyer ses douloureuses défaites et de reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Nous connaissons la suite en célébrant actuellement le centenaire de la Première Guerre mondiale. Dans une prochaine émission, je vous parlerai des anecdotes de la guerre de 1870 à Dreux et des personnages droués qui ont compté à cette époque. Votre émission Histoire et mémoire de la région d'Oise se termine. Pierre-Louis et Émilie vous donnent rendez-vous dans un mois.